Toyota Cowansville est fier de rouler aux côtés du balado Le Guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site cowansvilletoyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cowansville, ici, chaque client est unique. Bonne écoute!
Actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé, c'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto. Semaine mouvementée pour le monde du véhicule électrique. On y revient dans quelques instants avec Gabriel Gélinas, Hugues Gonneau.
Bonjour.
Salut. Bon, toi Hugues, les voitures électriques et les crédits gouvernementaux, changent pas grand-chose à ta vie?
Pas grand-chose à la mienne, mais tu sais, d'ici 10 ans, ça risque d'être un petit peu différent.
Je dis ça parce que tu conduis la même voiture depuis
10 ans.
Depuis 10 ans, puis elle a quoi, 50 000 km?
Non, oh, 34.
34 000 km. C'est vraiment utile, une voiture. Tu sais, quand tu habites dans Rosemont, puis tout se fait plus simple à pied.
Exact.
Oh oui. C'est ça. Bon, évidemment, on va parler de ces crédits-là aujourd'hui parce que le gouvernement, sans surprise, là, a annoncé une baisse des crédits provinciaux qui sont applicables aux véhicules électriques et hybrides rechargeables. Étant fier de dire pour la première fois qu'au Canada, 10 % des véhicules vendus sont électrifiés, soit 100 % électriques ou hybrides rechargeables, on dit être heureux d'avoir contribué à atteindre un sommet sans précédent, puis mais là, la vérité, c'est que le portefeuille, ça fait mal. Faire des chèques de 5000 $ à chaque personne qui se procure un véhicule électrique et à chacun à des personnes qui se sont procurées 3, 4, 5 véhicules électriques en quelques années à peine et qui ont reçu chaque fois 7000 $ J'en ai souvent parlé d'ailleurs dans différentes chroniques. T'achetais trois Chevrolet Bolt puis t'en obtenais une quatrième gratuite. Là, c'était littéralement ça. Là.
Alors, parce qu'il y a des gens qui faisaient la revente de véhicules-là sur d'autres marchés, en Ontario notamment.
Ouais. Et puis en plus, avec la fluctuation des prix de véhicules comme les Tesla, à un certain moment donné, t'achetais pour revendre à profit en Ontario. D'autres fois, tu profitais de la hausse de prix pour voir ta voiture augmenter en valeur. Bon, il y en a que ça a été l'effet contraire aussi. On a parlé récemment tout avec les Mackie, mais tout ça pour dire que le marché du véhicule électrique est un marché artificiel de par le fait qu'on a des crédits qui varient tout le temps d'un endroit à l'autre. Écoute, on en parlait il y a quoi, la semaine dernière? L'Alberta qui taxe la voiture électrique pendant que nous autres, on la subventionne à fond la caisse. C'est difficile pour un constructeur automobile. Donc là, on a annoncé cette semaine, messieurs, qu'on allait réduire les crédits provinciaux applicables. Alors, rappelons quels sont-ils. 7 000 $ du provincial actuellement. Donc, Québec donne 7 000 $ pour un véhicule électrique de moins de 65 000 $ à tous ceux qui veulent s'en procurer. À partir du 1er janvier 2026, ça va baisser à 4 000. Ensuite, ça sera 1 000 $ et finalement...
2025.
Après ça, 2026, 2000, 2027, 1000, et après ça, rien pantou. Et pour les véhicules hybrides rechargeables, actuellement, c'est jusqu'à 5000. Ça sera jusqu'à 2000 l'an prochain, 1 000 $ l'automne d'après, puis après ça, c'est terminé. Donc, c'est certain que là, ce qu'on va voir dans les prochains mois, c'est une recrudescence des ventes de ces véhicules-là.
Ah, ça va être une ruée. Ça va être une ruée littéralement.
Ouais.
Et ça va être difficile aussi pour... Ça va dépendre des marques aussi. C'est parce qu'il y a certaines marques où il y a quand même des stocks qui sont disponibles. Il y en a d'autres. T'sais, on pense, par exemple, aux marques coréennes, Hyundai, Kia, Genesis, tout ça. Eux qui ont moins de stocks, d'inventaire de véhicules électriques. Et il y a des gens qui souhaitent avoir, par exemple, une IONIQ 6 ou autre chose d'électrique chez Kia ou chez Hyundai et Genesis. Alors, eux, effectivement, ça va être un problème parce que plein de gens vont vouloir absolument non seulement acheter le véhicule, en prendre possession et surtout l'immatriculer avant la date limite.
Ça, et c'est un point important parce que même si vous achetez un véhicule aujourd'hui, s'il ne vous est pas livré avant le 31 décembre de cette année, vous perdez 3 000 $ de subvention dès le 1er janvier 25.
Ça, donc, ça va faire une pression énorme sur... les gens vont se ruer chez les concessionnaires, vont demander quand est-ce que j'aurai mon véhicule, etc., etc. Puis ils n'ont probablement pas la réponse non plus. Ils vont vivre dans l'incertitude, donc dans l'espoir de pouvoir avoir le modèle qu'ils veulent. Ou alors, vont devoir se tourner carrément vers autre chose qui n'est pas nécessairement leur premier choix, juste pour pouvoir tabler sur cette subvention-là.
Mais moi, j'ai de la misère à comprendre quand même comment tu te dis, bon, pour sauver 3000 pièces, on est prêt à acheter un véhicule dont on ne veut pas.
C'est un point que tu amènes qui est intéressant. Parce que d'une part, tu as un constructeur comme Hyundai qui actuellement te vend une IONIQ 5 à 65 000 $ là, je parle d'une Ultimate, là, bien équipée, financée à un taux quasi usuraire de 7,5%, autour de ça. Fait que les gens se battent pour l'avoir parce que tu as une subvention de 12 000 $ parce que la demande est moins grande que l'offre. Puis les Tesla, c'est la même chose. Ça sort. Mais là, on regarde les produits hot de l'industrie. Mais que va-t-il arriver à des VinFast?
Oui, exact.
Tu sais, des produits, je veux pas dire de second rang, mais tu sais, VinFast, c'est un start-up.
Des produits qui ne sont pas encore prouvés.
Voilà. Ben, tu as besoin de ça. Et là, le truc qui risque d'arriver, c'est que d'une part, tu vas voir les constructeurs automobiles dire, est-ce qu'on baisse le taux de financement de 1 ou 2 % à partir de janvier 25 pour pallier à la perte que les gens vont subir? Fait que tu vas pouvoir vendre le véhicule comme s'il était vendu au prix de. Est-ce qu'on va décider de baisser les prix de certains modèles pour s'ajuster? Puis la beauté de la chose en même temps, c'est que on fait pas ça. On part pas de 5 000 puis on s'en va à zéro d'un coup. Mm-hmm. On le baisse progressivement. Moi, personnellement, si vous m'aviez demandé mon avis, j'aurais dit, vous avez déjà profité d'un crédit gouvernemental, vous n'êtes pas admissible à un second. Mm-hmm. Tu sais, je pense que l'objectif, c'est de convaincre un automobiliste de passer à l'électrique. Une fois qu'il a décidé de l'acheter puis de profiter de la subvention, il est fort à parier qu'il ne retournera pas à l'ancienne formule, en tout cas dans la majorité des cas.
Oui.
Mais là, si tu continues de donner des nananes sans arrêt, c'est là où j'ai un peu de misère. Puis c'est ce qui a fait en sorte que ça nous a coûté une fortune. En même temps, le gouvernement est content, il y avait des objectifs, il voulait mettre des véhicules verts sur la route, parfait, c'est fait. Mais là, tu te retrouves dans une situation qui est quand même un peu délicate. Et il ne faut pas oublier un autre truc. Le budget fédéral s'en vient le mois prochain.
Oui, ça, c'est l'autre histoire.
T'sais, que va-t-on annoncer dans le budget fédéral? Est-ce qu'on va conserver le 5 000 $ alors que Québec baisse ses crédits, alors que l'Alberta vient de lever la main en disant « Hey, moi, je vais les taxer, les véhicules électriques », puis que la Colombie-Britannique est en train de dire « Ouais, ben nous, finalement, n'importe qui gagne en haut de 80 000 là, en Colombie-Britannique, on donne pas de chèque. » qui gagne pas 80 000 en Colombie-Britannique? Enfin, il y a des gens, oui.
Sûrement.
Mais je veux dire, le coût de la vie en Colombie-Britannique est tellement élevé qu'on est en bas du salaire moyen là-bas. Donc, on subventionne pas grand monde au final. Fait que je trouve ça bien intéressant comme stratégie. Et j'ai surtout hâte de voir comment des Mitsubishi qui, dans le plus clair de leur vente, vendent du PHEV actuellement avec de gros crédits, vont composer avec cette baisse, cette hausse de prix-là, devrait-on dire, là, parce que, tu sais, des RAV4 Prime, si c'est attrayant, c'est parce qu'il y a des gros rabais dessus. Alors, si le fédéral et le provincial disent, nous, on retire la moitié du crédit en moins d'un an, ben, ton RAV4 Prime que tu vends à 8 % de taux de financement, il vient te prendre une volée, puis la même chose pour l'Outlander PHEV.
Reste à voir ce que les constructeurs vont faire avec ça. Tu as raison. Ils peuvent jouer sur le taux de financement. Ils peuvent jouer sur un paquet d'autres facteurs. Mm-hmm. Mais c'est clair aussi, je pense, que les constructeurs automobiles ont profité aussi du fait qu'il y avait ces programmes d'incitatifs pour maintenir un prix quand même relativement élevé. Et aussi, il faut dire, ils ne faisaient pas énormément de volume au départ avec les véhicules électriques. Donc, selon moi, ce programme-là, il y a eu du bon, de partir la machine, si on veut, ou de faire en sorte que des consommateurs puissent s'intéresser aux véhicules électriques. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est trop tôt pour justement fermer le robinet graduellement?
Oh non, je pense où est-ce que, pas.
Ben,
personnellement,
voir,
non. T'sais. Je veux dire, ça dépend. Si tu regardes ton portefeuille, c'est certainement pas trop tôt, c'est même trop tard. Mais si tu regardes l'objectif ultime du gouvernement qui veut contrôler l'énergie avec l'hydroélectricité, ben eux, il n'y en aura jamais assez. Fait que t'as un même gouvernement qui fait face à différents enjeux puis qui doit prendre une décision. Puis là, la décision a été prise. Moi, je pense qu'il était temps, parce que financièrement parlant, à un moment donné, il y a des limites. Là. Mais effectivement, que ça risque de changer la donne pour la façon de vendre des véhicules. Tu sais, un véhicule électrique, on se rend compte de plus en plus qu'il y a beaucoup de, je ne vais pas dire de downside, mais de côté un peu plus sombre à l'achat d'un véhicule électrique. Là, on le voit avec le coût des assurances qui explose pour ces véhicules-là. À qui je parlais cette semaine, qui me disait avoir fait une soumission pour une Model 3 de base à 2 700 $ d'assurance quand ils payent 800 présentement pour se promener en Ford Escape. C'est épouvantable.
Et ça, c'est une dépense qui revient année après année aussi. Et
année après année, voilà. L'usure des pneus. Si là, ça, bref, il y a beaucoup. Là, on s'en va ailleurs. Mais tout ça pour dire que les réactions des constructeurs et des concessionnaires dans les prochains mois vont être très intéressantes à suivre.
Puis ce qui va être intéressant, c'est aussi de voir un peu ce qui va se passer en 2025, parce qu'il va y avoir des contre-coups. Là, ça va être la folie en 2024. À partir de 2025, ça va être les vrais contre-coups. Et comment le monde va réagir? Est-ce que le marché de l'électrique va plonger? Est-ce que les objectifs...
Surtout, c'est le fédéral coupe
voilà.
En plus.
C'est ça. Donc là, 2024, on sait que ça va être la panique. 2025, ça va être intéressant à voir.
Parce qu'on a déjà vu ce scénario-là il y a quelques années, souvenez-vous, en Ontario, parce que le gouvernement précédent, avant Ford, premier ministre Ford en Ontario, il y avait des mesures incitatives provinciales pour l'achat d'un véhicule électrique. Le gouvernement Ford, conservateur, il a carrément arrêté ça, tu sais. Et on a vu, tu sais, les ventes plonger, le chuter. Ça a eu ceci de bon.
Le Québec, elle a acheté tous les inventeurs de véhicules électriques de l'autre côté. Ouais.
Ça a eu ceci de bon pour nous, au Québec, de pouvoir avoir plus d'inventaires parce que les ventes en Ontario ont été réduites presque à néant. Ouais. Donc, est-ce qu'on va voir ce genre de phénomène-là qui va se produire au Québec? Ça m'étonnerait, mais une chose est certaine, clairement, là, il va y avoir un ralentissement de ce côté-là.
Oui, absolument. Là, non seulement on a décidé d'arrêter d'offrir de gros rabais aux électromobilistes, donc on ferme les valves un petit peu de ce côté-là, mais en plus, on va aller chercher des taxes supplémentaires à l'automobiliste et d'une façon, honnêtement, que je trouve pas audacieuse, mais moi qui est un gars qui achète beaucoup de véhicules d'occasion dans ma vie, quand j'ai vu cette nouvelle-là sortir, j'ai fait « bon, le party est fini ». C'est-à-dire que je vous explique un peu comment fonctionnent les ventes de véhicules d'occasion entre
particuliers.
Voilà. Parce qu'il faut souligner, à partir du moment où tu achètes d'un commerçant, tu payes les deux taxes.
Voilà.
Mais là, actuellement, si tu achètes une voiture d'un particulier qui est âgée de 10 ans ou moins, à la Société de l'assurance automobile du Québec, on va te taxer une seule taxe selon l'évaluation de ton véhule basée sur un livre qui s'appelle le Guide Hebdo, dans lequel les valeurs indiquées sont du gros n'importe quoi, parce qu'on a vu des marchés fluctuer, puis des trucs qui ont...
Alors, surtout récemment, avec la pandémie, la valeur des véhicules usagés qui a explosé, etc.
Ben oui, alors moi, je me souviens, l'an dernier, on a eu une Nissan Leaf à rouleau suivant, 2014, qu'on a récupéré pour une bouchée de pain. La voiture nous a pratiquement rien coûté parce que la batterie était défectueuse, mais j'ai quand même dû payer les taxes sur 14 800 $ sur une Nissan Leaf qui avait 9 ans parce que au livre, elle était ainsi listée. Puis pas de façon de... À moins de la faire dévaluer, puis de payer pour la faire dévaluer, tout ça, ce que j'aurais pu faire, là, bon. Mais c'est ça, c'est que ces valeurs-là sont au livre, tu payes avec. Et là, la limite de 10 ans va être repoussée à 14 ans parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a plus de... Je me souviens pas du chiffre exact, mais il y a plus de 130 000 transactions qui ont été faites où les gens déclaraient acheter une voiture de 2010-11-12 à 1 $.
Il y a eu 200 000 ventes de voitures de plus de 10 ans. OK. Et il y en a, de ce nombre-là, il y en a 70 000 à un prix qui n'est pas de 1 $ et 130 000 à un prix de moins de 1 $. Ça, c'est ce qu'a indiqué le ministre des Finances dans son allocution.
Je doute honnêtement que ce soit vrai, là, parce que est-ce que 130 000 personnes ont vendu des voitures à 1 $? Je veux dire, ont faim de vendre des voitures à 1 $, je ne suis pas certain, mais enfin bref, effectivement que c'est possible de le faire. Et à partir de je pense pas que c'est maintenant, je pense que c'est à partir de janvier 25, la date, je me souviens pas, mais on va repousser cette limite-là à 14 ans pour l'âge des véhicules. Mm-hmm. Mais si on prend une voiture qui a 14 ans aujourd'hui, c'est-à-dire une Honda Civic de 2010, ben une Honda Civic de 2010, ça peut se vendre 3, 4, 5, 6 000.
Ça dépend de l'état, du millage, de tellement de paramètres.
Si la voiture est listée à 4 000 $, ben tu vas payer 9 % de 4 000 $. Alors qu'en ce moment, ben si tu achètes la voiture à 4 000, ben tu peux la passer à 1 $. C'est pas honnête de le faire, mais en même temps, il n'y a rien qui te l'empêche officiellement. Donc, c'est une façon d'aller chercher des taxes.
Regarde, il y en a qui ont abusé. Maintenant, on paye tous collectivement. Et puis,
en même temps, oui, mais quel autre bien d'occasion
t'achètes un ordinateur d'occasion, tu ne payes pas de taxes. T'achètes un set de chambre d'occasion, tu ne payes pas de taxes. Mais la voiture, elle est revendue 5 fois dans sa vie.
Taxé cinq fois.
Ben oui, moi j'ai acheté le cabanon.
C'est pas mal du tout. Ça,
j'ai acheté le cabanon un jour d'un voisin qui n'avait plus besoin.
Ben voilà.
On l'a déplacé sur roulette, mais le cabanon, ça valait 5000 $. Pas de taxe là-dessus.
Non.
Alors pourquoi j'ai une taxe sur la voiture? Puis là, attends, là, on t'a
parlé. Parce qu'il y a une plaque d'immatriculation. Je vois pas
d'autre. C'est ça. Ben même qu'il y a d'autres il y a d'autres véhicules motorisés sur lesquels tu ne paieras pas de taxes. Tu vas acheter une remorque, tu ne paieras pas de taxes. C'est pas, tu sais, bon. Non. Alors, c'est vraiment l'automobile qui est comme ça. Et il y a des provinces où tu n'es pas taxé.
Mais ça me paraît logique. Je veux dire, quel objet peut être taxé plusieurs fois dans son existence? À partir du moment où c'est à toi, tu l'as acheté, tu as payé les taxes une fois, c'est parfait, c'est correct, il n'y a pas de problème avec ça. Mais après, t'en repayes. C'est quelque chose qui m'a toujours échappé personnellement en termes de logique. Alors après, évidemment, le gouvernement va te dire, nous, on a besoin de cet argent-là, certes. Mais en termes de logique, c'est quand même difficile à expliquer.
Pour pallier à beaucoup d'illogisme, voilà. C'est une autre histoire. Mais malheureusement, le party est fini pour ceux qui voulaient justement jouer sur cette ligne-là et pouvoir...
Et c'est dommage parce que tu sais, il y a probablement beaucoup, par exemple, de familles, tu sais, que la voiture de papa ou maman va être vendue à fiston, c'est sa première auto, puis tout ça. Puis, tu sais, fiston n'a pas beaucoup de sous, ou ta fille, whatever, qui commence à conduire.
Si, entre famille, père, mère, frère, sœur, tu as un formulaire que tu remplis pour être exempt de taxes. Puis c'est vrai même pour une voiture qui a un an.
Là. OK, ça, je ne savais pas.
Alors, si tu vends à ta famille immédiate, ça ne peut pas être ton cousin ou ta grand-mère, soit père, mère, frère, sœur.
OK.
Puis là, je m'excuse parce qu'il y a peut-être d'autres sortes de genres que je ne nomme pas. Mais tout ça pour dire que... parce qu'aujourd'hui, il faut faire attention. Mais tout ça pour dire que, effectivement, ça, tu peux être exempté complètement.
OK, parfait.
Et puis, voilà. Mais oui, tous les autres vont y goûter. Sans surprise, on parlait la semaine dernière avec Louis-Philippe des améliorations au Volkswagen ID4. Ben là, Audi a dévoilé cette semaine qu'on apportait les mêmes corrections à ce véhicule-là.
Bon. Un peu logique, les deux véhicules sont élaborés sur la même plateforme MEB du groupe Volkswagen. Et tu sais, ça va être la même chose aussi avec la Porsche Taycan et la Audi RS e-tron GT. Ouais. Plateforme J1, donc ils ont amélioré l'autonomie sur la Taycan, ça va être amélioré sur la Audi. C'est juste une question de quelle marque fait ces annonces-là en premier. Et là, c'est là que tu vois, tu sais, c'est quoi la hiérarchie dans le groupe Volkswagen. Donc clairement, tu sais...
Ouais, le Q4 est un produit de second rang pour eux. L'ID4 est drôlement plus important, voilà. Alors que dans le cas de la Taycan, elle est plus importante que la e-tron.
Voilà.
Oui, tu as absolument raison. Ouais.
Donc c'est comme ça que ça fonctionne dans le groupe Volkswagen. Mais une chose est certaine, oui, effectivement, tu vas avoir une bonification de l'autonomie dans le cas du Q4 e-tron, comme on l'a vu pour le ID4. Et puis, ça va être la même chose aussi pour Taycan et la e-tron GT, clairement.
Donc, on va avoir un Q4 propulsé avec plus de puissance, plus d'autonomie. C'est surtout là que l'amélioration se fait, parce qu'au niveau des quatre roues motrices, on gagne quelque chose comme une quinzaine de kilomètres d'autonomie.
Ouais,
alors, c'est pas grand-chose. Mais il faut se mettre à la page aussi, parce que des nouveaux joueurs qui arrivent dans le segment. Volvo, évidemment, qui modifie légèrement ses véhicules pour 2025. Il y aura effectivement BMW qui va être sur le point de dévoiler un véhicule tout électrique dans ce segment-là, qui va venir peut-être faire mal à ces véhicules-là aussi. Alors, on devra en savoir plus d'ici quelques semaines.
Il y a un autre truc que je pense qui est intéressant dans le cas du Q4, c'est le fait qu'ils ont changé le moteur arrière. Tu sais, le moteur arrière est plus performant, plus puissant aussi.
C'est ça.
Donc, en faisant des améliorations du côté, non seulement de la batterie, de l'autonomie, puis de combien de kilowattheures tu peux disposer, mais aussi si tu as un gain d'efficacité des moteurs, que ce soit plus de puissance ou un moteur qui est plus efficace aussi, consomme moins d'énergie. Ça aussi, c'est un pas dans la bonne direction. Mais tu sais, je pense qu'on assiste maintenant un peu de tweaking pour ce qui est des voitures électriques et aussi au niveau des
tweaking, c'est le genre de mot que Hugues dit plus souvent que toi. Là.
Alors, pourquoi?
De peaufinage.
C'est un mot français.
Ouais.
On peaufine un peu aussi les algorithmes pour la gestion des flux d'énergie, ces choses-là,
ouais.
De façon, encore une fois, essayer de rendre les voitures plus efficaces, leur donner un peu plus d'autonomie. Mais c'est ça, c'est des avancées qui sont vraiment pas à pas. Un peu comme quand un constructeur refait une voiture à moteur thermique, tu sais, tout à coup, bof, il y a 15 chevaux de plus qu'avant. Pourtant, le moteur n'est pas nécessairement changé, mais ils ont changé la pression sur l'alimentation du turbo, la gestion électronique du moteur. Donc, on assiste un peu à la même démarche pour ce qui est des voitures électriques. On essaye d'optimiser un peu partout où on peut, là.
Un des rivaux qui risque d'être à surveiller dans les prochaines années, évidemment, je parle du Q4, c'est ce que Rivian a dévoilé la semaine dernière.
Mm-hmm.
Alors, on a présenté le R2, qui n'était pas nécessairement une surprise parce que on jurait que c'est un R1S passé dans la sécheuse, là, littéralement.
7-8e.
Mais dans le cas du R3 et du R3X, c'est un look qui m'a complètement charmé. Un véhicule qui a de l'air peut-être plus petit que ce qu'il est en réalité, mais c'est vraiment un format de VUS façon Volvo C40. Là, on est vraiment dans ce format-là, mais avec un look très boxy, très moderne.
Tu sais à quoi j'ai pensé quand j'ai vu ça? J'ai pensé à la Hyundai Pony surélevée.
Ben en fait,
il y a
plusieurs blogs européens qui l'ont comparé à une Golf 2 Country.
Ouais. Ah oui, ça aussi, pourquoi pas.
Oui, absolument. C'est vraiment... je trouve que ce véhicule-là est totalement réussi sur le plan esthétique et s'y est très, très bien avec l'image de la marque Rivian, ou du moins ce qu'on veut refléter. Parce que Rivian, c'est une marque de véhicules aventuriers. Moi, tu vois, je vois un peu là-dedans l'ancêtre des petits trackers, ce genre de trucs-là.
Ouais.
Mais à la formule moderne, où évidemment, c'est un véhicule à 5 portes, avec des voies larges, avec un empattement plus long. Mais l'espèce de petit côté très carré, très angulaire, très costaud en format de poche, je trouve ça vraiment cute comme produit.
Reste à savoir, tu sais, quand est-ce que ça va arriver sur le marché? Et à quel prix aussi?
C'est ça le problème. C'est ça le problème de marques comme Rivian.
Exactement. Est-ce que cette marque-là va survivre aussi?
Ils font des annonces, mais ils parlent de 2027 pour le R3.
Voilà, c'est ça.
Ils ont le temps de faire la faillite 3 fois, de ressortir du chapitre 11 3 fois.
Mais tu sais aussi, récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui autrefois était chez Aston Martin à l'époque où, je ne sais pas si tu te souviens, au Salon d'Auto de Genève, Aston Martin est arrivé avec 5 voitures, 5 concepts. Puis là, le gars, il m'a dit, quand tu vois un constructeur faire ça, là,
Lotus, te souviens de Lotus?
J'étais au Salon de Paris quand ils ont fait ça.
Ouais.
Exactement, Lotus, même chose. Quand tu vois ça, là, c'est parce que ça va pas bien. Ils ont besoin d'attirer des investisseurs.
Mais
non. Okay.
Ouais.
Alors, est-ce que ces scénarios-là qui défi se pointe pour Rivian? Parce que c'est pas, une compagnie...
Est-ce que je peux lever ma main en posant des questions sur VinFast?
Oui, c'est ça. Mais tu comprends? Ce que je veux dire, c'est pas une marque établie. C'est pas le groupe Volkswagen. C'est pas, tu comprends ça?
Non.
C'est pas Tesla en termes de volume de vente non plus.
Mais Rivian, ils ont quand même vendu Rivian 80 000 véhicules à date. Mais c'est pas rien.
C'est pas rien. Mais on s'entend que...
Ouais.
Est-ce que tu as les reins assez solides pour assurer le développement de tous ces modèles-là, leur conformité à tous les standards, et ensuite, pour les vendre?
Oui, mais justement, regarde, les réservations sont déjà ouvertes, donc eux, ils font aussi, eux, ils jouent au maximum, c'est-à-dire on va faire rentrer l'argent.
On a annoncé qu'on commencerait à livrer ces véhicules-là dans le premier trimestre de 2026 comme modèle 2027, que le prix d'entrée serait autour de 45 000 américains, ce qui veut dire quelque chose comme 55-60 ici. C'est certain que ce produit-là, sur un marché comme le Québec, ça peut marcher très fort.
Mais encore une fois, c'est un effet d'annonce pour dans 3 ans. Et là, on commence à prendre l'habitude que les effets d'annonce 3 ans plus tard, ils se transforment en pas du tout ce qu'on avait prévu. On peut parler de GM, du Cybertruck, de toutes sortes de choses.
Et puis, les retards là, pour les voitures électriques, on l'a vu avec Volkswagen, on l'a vu même avec des marques établies qui annonçaient on va arriver à telle date avec tel modèle pour s'apercevoir finalement que c'est un an et demi plus tard.
GM!
Exactement. Fait que, déjà, c'est compliqué pour des marques établies.
Ouais.
C'est encore plus difficile pour une marque naissante, un start-up
en même
finalement,
temps,
qui est Rivian.
Je vais donner le bénéfice du doute à Rivian qui a présenté ces deux...
Je leur souhaite juste
que ça marche. Mais souvenons-nous...
Ils ont l'air plus sérieux que pas mal d'autres. Faut le dire.
Puis Rivian a présenté ses deux véhicules à Los Angeles en 2018. Mm-hmm. T'étais là, je crois, aussi.
Ouais.
Et moi, je me souviens d'avoir été mais vraiment mâchoire décrochée devant cette camionnette-là avec le tunnel de passage. C'était très innovateur quand on a présenté ça. Le président était sur place. Remarque, ça a été la même chose avec Fisker il y a quelques années, avec Henry Fisker, quand il a présenté son Fisker Ocean.
Ouais.
Mais... toujours est-il qu'on avait annoncé une commercialisation en 2020 pour la camionnette Rivian. La COVID a fait que ça a pris un an de plus, mais on a quand même commencé à vendre le véhicule aux États-Unis. Et là, c'est une question de semaine avant qu'il y ait le point de service ou le point de vente qui ouvre au Québec. Donc, on s'installe, on fait ce qu'on a dit de faire. Oui, on a des problèmes financiers comme n'importe quelle start-up dans l'industrie automobile. Lancer une nouvelle marque de véhicules aujourd'hui, ça prend les reins ultra solides. Et ça prend un courage exceptionnel. Puis il y en a plusieurs qui ont essayé qui se sont plantés. Alors, vous vous souvenez d'Imperium Motors il n'y a pas longtemps. Vous vous souvenez de Lordstown aux États-Unis. Il y en a eu plusieurs.
Ah, Nicolas.
C'est ça. Il y en a eu plusieurs. Mais Rivian me semble une entreprise qui, jusqu'à date, livre des véhicules qui ont une certaine qualité. La réputation est déjà pas mal. Bien hâte de voir ce que ça va faire avec ce produit-là.
Je pense que c'est unanime qu'on leur souhaite que les véhicules arrivent, mais il y a toujours une petite réticence.
Entre-temps, il y aura le R2 aussi qui va arriver, qui, lui, est dans un format plus traditionnel et qui risque de connaître un succès aux États-Unis aussi. Alors, à suivre pour le R3, mais moi, ça a été mon petit coup de cœur de la semaine. Et dommage qu'on ne puisse pas profiter des pleins crédits en 2027.
Que... La boucle est bouclée.
Voilà.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Le guide de l'auto.
Dans la catégorie des véhicules Volkswagen qui ont été vendus chez nous et qui étaient assez audacieux, il y a le Touareg V10 TDI qui m'a toujours impressionné. À plus de 80 000 $ en 2004. Et cette même année-là, comme si c'était pas assez, il y a une berline pleine grandeur qui est débarquée chez Volkswagen pour aller rivaliser contre une autre berline pleine grandeur de luxe du même constructeur qui était l'Audi A8. Il y a quelqu'un quelque part chez Volkswagen qui a eu une idée. C'était écrit dans le ciel que ça serait un échec commercial, mais non, on a quand même décidé de la lancer. Alors, on parle évidemment de la Volkswagen Phaeton. Hugues, tu as une belle histoire à nous raconter là-dessus.
Oui, c'est une assez belle histoire. Il y a des autos, avant même d'en avoir pris le volant, vous savez que ça va être un désastre commercial. Tout le monde se doutait que la Phaeton allait être un échec. Tout le monde savait que même si elle était parfaitement exécutée, c'était une mauvaise idée. Tout le monde... sauf une personne.
Ouais. Ferdinand Piëch, nommons la personne. Bon, comment ça a commencé l'aventure pour la Phaeton?
Le point de départ, c'est le salon de Francfort 97. Déjà depuis quelques années, BMW et Mercedes ont commencé à descendre en gamme et à prendre des ventes à la populaire marque Volkswagen. Et au salon de Francfort, Mercedes dévoile sa compacte classe A.
Ouais.
Le président du groupe Volkswagen est absolument furieux et il dit, eh ben, si c'est comme ça, Volkswagen va concurrencer Mercedes.
Ah oui?
Ouais.
Non, c'est vraiment...
C'est aussi zozo que ça.
Donc, autrement dit, t'as un président de Volkswagen qui dit, hey, Mercedes va aller jouer dans les plates-bandes de ma Golf, moi je vais aller jouer dans les plates-bandes de sa classe S.
Exactement.
C'est pas plus dur que
c'est
ça.
C'est pas
wow,
plus dur que
okay.
ça.
Ça marche.
Et donc là débute le plan de montée en gamme de la marque, s'appelant littéralement, on va le rappeler quand même, la voiture du peuple. Le tout est accompagné par les rachats de Bugatti, Lamborghini et Bentley en 98. Premier signe de cette montée, c'est le lancement de la Passat W8 en 2002,
oui.
Avec son W8 de 4 litres de 275 chevaux. L'auto sera un bide, 11 000 ventes en 3 ans, et tout l'investissement sur le V8 ne sera pas amorti, puisqu'il aura été utilisé sur juste un seul modèle. Mais là, c'est que le début.
Tu parles du W8.
Du W8.
Oui, ok.
Et là, c'est que le début, parce que là, justement, maintenant, Volkswagen veut aller concurrencer la classe S.
Bon, le président de Volkswagen, à ce moment-là, c'est Ferdinand Piëch. Parle-moi un peu du bonhomme.
C'est un type avec un CV qu'on peut dire prestigieux. C'est le petit-fils de Ferdinand Porsche, le concepteur de la Beetle, et le neveu de Ferry Porsche, fondateur de la marque Porsche.
Ouais.
Ingénieur de formation, il est notamment le créateur de la Porsche 917 Victorioso 24 heures du Mans et de l'Audi Quattro. Il a été président d'Audi de 1988 à 1992 et devient président de tout le groupe Volkswagen le 1er janvier 1993. À ce moment...
T'es en train de me dire que c'est au moment où lui était en poste qu'Audi a lancé sa première V8.
C'est ce que ça veut dire. Il y a eu l'Audi A8 avant, qui était la V. Il y a eu la V8.
Il y a eu la V8 à partir de 90.
88 en Europe. Et, et la 8 arrive à peu près dans ces moments-là.
La 8 après,
ouais.
Ok.
Et à ce moment-là, le groupe Volkswagen est au bord de la faillite. Piëch réalisera un redressement spectaculaire. C'est un ingénieur doué, mais avec une personnalité de sociopathe. Le type est extrêmement exigeant avec tous ses collaborateurs. Il manage par la terreur et son surnom est le Bulldog.
Okay.
Piëch ne supporte pas la contradiction et n'a jamais tort. C'est pour cela que personne n'a osé rien lui dire pour la Phaeton.
Bon, alors, cette Phaeton-là, il a décidé de la lancer, mais il y avait, derrière la voiture, il y avait énormément d'innovations, de technologies, de trucs qui étaient intéressants, où il partageait avec Audi, entre autres, mais aussi parce que c'était la première fois qu'on voyait une voiture de marque généraliste aussi luxueuse, aussi remarquable au niveau de la qualité de fabrication. Là.
Tout à fait. Et rien ne sera trop beau pour le projet W611. Nouvelle plateforme, nouvelle technologie, nouvelle usine. Le programme aurait coûté 1 milliard d'euros. Et Piëch a fixé une liste de 10 critères d'ingénierie réputés impossibles.
Wow.
En voyant la liste, la moitié des ingénieurs seraient sortis de la pièce en état de choc. Et un seul critère a été rendu public, c'est la capacité de rouler toute une journée à 300 km/h avec une température extérieure de 50 degrés tout en maintenant une température intérieure constante de 22 degrés. Un truc de fou, surtout quand on sait que la voiture est limitée à 250 km/h.
Et on sait que c'est utile, ça. Bien sûr,
indispensable.
Mais tu parlais d'un sociopathe. Clairement, c'est ce genre de demande.
On y est, il n'y a pas photo. La nouvelle plateforme D1 est développée et pour amortir les coûts, elle est partagée avec la Bentley Continental GT et la Flying Spur qui sont à venir.
Ouais.
Autre critère d'ingénierie intéressant est d'offrir une rigidité en torsion exceptionnelle pour améliorer le confort et la tenue de route.
Ouais.
Les ingénieurs vont faire un travail de fou et réaliser un chiffre de 37 000 Nm par degré en déformation. En comparaison, une 911 turbo 996 de la même époque faisait 27 000 newtons, donc beaucoup plus rigide qu'une 911. Ajouter une nouvelle suspension pneumatique à pilotage électronique, la transmission intégrale de type Aldex, le radar de stationnement avant et arrière. La climatisation ne comprend pas moins de 24 servomoteurs pour réguler la température sans le moindre courant d'air et avec un déshumidificateur pour éviter la buée sur les fenêtres. Au final, la conception de la Phaeton amènera au dépôt de plus de 100 brevets.
Et là, ça, c'est une chose, mais on veut aussi changer la façon de la fabriquer. Autrement dit, on veut faire les choses un peu différentes. C'est pas la première fois qu'on entendait ça. Tu sais, moi, je me souviens de l'épisode de la Cadillac Alante, donc tu vas peut-être
oui,
nous parler un jour
bien sûr.
Où on a eu un festival de mauvaises idées comme ça. Mais là, c'est quand même assez impressionnant, là.
Oui. Et alors, effectivement, ils veulent changer la façon de faire les choses parce que pour voitures de luxe, écrin de luxe, donc une toute nouvelle usine est construite à Dresde, dans l'ex-Allemagne de l'Est, elle est appelée la fabrique de verre. Et contrairement au site de production traditionnel, c'est une usine silencieuse, propre et gorgée de lumière naturelle. Les convoyeurs robotisés se déplacent sur un plancher en érable canadien. Les ouvriers sont habillés en blanc et il n'y a que 3 robots, histoire de montrer la qualité du travail à la main. Mais bon, pour ça, il y a une astuce, évidemment. Pour éliminer les bruits et les odeurs, toute la tôlerie est réalisée dans une autre usine, Azuico, située à 100 km de là, et les moteurs sont aussi assemblés sur d'autres sites. Évidemment, on ne peut pas tout avoir. Hein. Alors, cerise sur le gâteau, la fabrique de verre est aussi utilisée comme lieu de culture et avec l'organisation de concerts, et les clients peuvent venir chercher leur voiture après une visite sur la ligne d'assemblage, et le personnel est formé pour parler au public.
Imagine-toi. Puis là, on a des grosses attentes avec un produit comme celui-là.
D'attente de fou. En effet, Vaux vise la production de 20 000 véhicules par année. Dans ce segment-là, quand on n'est pas installé, c'est quand même pas mal. La marque montre un premier prototype à Francfort en 1999 sous la forme du concept D, avec le fameux V10 TDI dont tu as parlé au début.
Ouais.
La version finale est présentée au Salon de Genève en 2002. Au départ, 3 motorisations sont disponibles, un V6 de 3,2 litres, un V8 de 4,2 litres et un W12 de 6 litres. Il y a 2 empattements, 2,88 m ou 3 m. Un an plus tard suivra un V10 turbo diesel de 5 litres, celui dont on parlait toujours, et un V6 turbo diesel de 3 litres l'année suivante. À l'intérieur, on retrouve les meilleurs cuirs, les meilleurs bois, les plus beaux plastiques. Le siège conducteur offre jusqu'à 18 possibilités de réglage. Les passagers arrière peuvent bénéficier d'une console centrale. Et tout est fait pour pouvoir maintenir une conversation à 250 km/h sans avoir à lever la voix. Et c'est vrai, je peux le confirmer.
Écoute, tu parles de ça. Alors, avant de passer à ton prochain sujet et aux ventes du véhicule, qui n'ont pas été aussi intéressantes que souhaité, une des premières Volkswagen de presse que j'ai empruntée, moi, personnellement, c'était une Phaeton 2004. Couleur vert de gris avec un intérieur tabac. Je me souviens très bien de la voiture. Et j'avais fait un aller-retour New York. Et à cette époque-là, je ne me souviens pas avoir conduit une voiture aussi impressionnante.
Non, non.
Bon, évidemment, mes référents n'étaient pas aussi élevés, mais c'était un TGV sur autoroute. Ah. Le comportement routier de ça, c'était extraordinaire. Et c'était que le 4.2, parce qu'on a eu le W12 aussi qui a été offert chez nous. Là.
Mais ça, je pense qu'il n'y a personne qui n'est pas d'accord à dire que c'était une voiture exceptionnelle pour ce qui est du confort.
Moi, j'étais au lancement en Allemagne. Et quand je te dis qu'on roulait à 250 km/h sur l'autobahn à 4 dans la voiture, dans la version diesel qu'on n'a pas eu ici, sans avoir à lever la voix, c'est pas une image, je l'ai fait.
Wow.
Donc, ça en dit beaucoup sur la qualité du véhicule.
Sur le plan technique, c'est une voiture qui était au point, puis avec le fric qu'ils ont mis là-dedans, puis les ingénieurs qu'ils ont mis là-dedans, les ressources qu'ils ont mis là-dedans, c'est clair que ça ne pouvait pas faire autrement. Et surtout avec le patron qui surveillait ça, ce projet-là, comme il voulait avoir, je suis convaincu, des mises à jour au quotidien, là, savoir comment les choses avançaient. Alors, c'est clair que c'était une voiture qui était techniquement au point. Mais tu sais, personne ne va acheter une Volkswagen de 100 000 $.
Ben non, c'est ça.
c'est ça le problème.
Et qui plus est en 2004.
Exact.
Tu sais, parce que même aujourd'hui, une Volkswagen à 100 000 $, ça dépasse l'imaginaire, tu vas me dire.
Exact.
Mais en 2004, il y a 20 ans, c'était des sous pas à peu près.
Et c'est vrai que les ventes décollent pas en Europe, parce que la voiture à ce moment-là n'est pas encore lancée ici. Il y a juste l'Allemagne où les ventes sont à peu près décentes. Et à ce moment-là, ben, Volkswagen compte beaucoup sur le lancement nord-américain. Et la marque espère écouler entre 4 et 5 000 véhicules par année. On aura droit qu'aux versions longues, donc pas l'empattement court, et aux moteurs V8 et W12. Le V10 devait arriver plus tard.
Mais le V6 devait être offert ici, puis ils ont changé d'idée.
Bah, initialement, non, mais de toute façon, il n'y était pas. Mais
ouais,
très vite, ils ont vu que ça ne décollerait pas. Pour rappel, les prix canadiens à l'époque étaient de 96 500 $ pour le V8 et 119 500 pour la W12.
Ça, c'est à la dernière année de commercialisation.
La première année.
Ah oui, hein. Imagine, tout ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Hey, c'est le prix de ça. Bon. Puis évidemment, chez nous, on l'a vendu 2 ans et demi parce qu'il y a eu quelques 2006, mais bonne chance à ceux qui mettent la main sur des 2006. Là, je n'ai à peu près jamais vu. Je me souviens de la distinction facile à faire entre une 2004 et une 2005. Tu n'avais pas la même grille de calandre. Puis le dessin des jantes avait changé. Ouais. Là, tout de suite, tu es distingué. 2006, c'était la même chose, mais il n'y en a pas eu. Là. Rapidement, la voiture est disparue du marché. Mais on l'a gardé, quoi, 10 ans de plus Europe. Là.
On va y venir. Alors justement, on va donner des chiffres. Millésime 2004, on regarde les ventes américaines dans le segment des berlines haut de gamme. 32 300 Lexus LS, 20 400 Mercedes Classe S, 16 100 BMW Série 7, 7 600 Audi A8, et 1939 Volkswagen Phaeton. Donc là, c'est une catastrophe. Au Canada, c'est pire. 93 exemplaires vendus en 2004.
93, moins de 100 unités. Ouais. Et là-dedans, on peut s'imaginer que chaque propriétaire de concessionnaire Volkswagen s'en est au moins livré une à lui-même. Ça,
clairement.
Combien il y avait de concessionnaires Volkswagen au Canada à cette époque-là? 60?
Ouais, à peu près.
Ça veut dire qu'au détail, on en a vendu une trentaine. Ouais.
Et c'est tellement une catastrophe qu'en novembre 2004, Axel Mies, le directeur d'Audi USA, critique publiquement le lancement de la Phaeton. Devinez quoi? Il est licencié le lendemain. On parlait du patron. Les ventes américaines baissent tellement vite que la Phaeton est effectivement, comme tu le disais, retirée à la fin du millésime 2006 après seulement 3354 immatriculations en 3 ans. Et ça, bah, c'est au prix de généreux rabais dans certains cas.
On salue le papa de notre ancien collègue Germain Goyer qui s'est acheté tout récemment une Phaeton 2004 en super condition. Elle est rangée sous une toile dans un garage et c'est son char du dimanche. Mais il ne l'a pas payé 100 000. Bon, alors, terminé en 2006 pour nous, mais aux États-Unis, en Europe, on continue de la produire et très longtemps, on y apporte des améliorations.
Oui.
Donc, on s'est obstiné.
Pourquoi? Parce que Ferdinand Piëch n'est plus le PDG de Volkswagen depuis 2002, mais il est encore président de son conseil de surveillance. Et donc, la Phaeton continue dans un anonymat de plus en plus grand. Il y a des restylages mineurs en 2008, 2011, 2014, notamment pour remettre les moteurs, les systèmes d'avertissement et les aides à la conduite au niveau. L'esthétique ne bougera pas beaucoup.
Non.
Piëch est finalement poussé dehors en 2015 et, comme par hasard, la fabrication de la Phaeton s'arrête le 18 mars 2016. Après seulement 84 253 exemplaires en 15 ans. 84 000 voitures en 15 ans. Pour information, les marchés les plus populaires ont été la Chine, la Corée du Sud et l'Allemagne.
La Corée du Sud, ouais. OK, intéressant. Mais cette voiture-là, bon, évidemment, là, on le sait, là, ça a été un échec commercial épouvantable. Mais à l'inverse de beaucoup d'échecs commerciaux dont on peut avoir parlé, c'était pas une mauvaise voiture, c'était uniquement une mauvaise mise en marché.
Exactement, c'est une voiture qui avait des qualités incroyables, on en a parlé, mais elle souffrait d'un style trop proche de la Passat. Toutes les deux ont été dessinées sous la direction du designer Hartmut Varkus, j'espère que je prononce bien. Elle avait des qualités dynamiques moindres que celles de l'Audi A8 parce qu'elle pesait 300 kilos de plus.
Parce qu'elle n'avait pas de carrosserie d'aluminium.
Voilà. Et le réseau n'était pas du tout préparé à la vendre. Mais je pense que le pire, c'était le logo sur la calandre, qui était le Mein Kampf Golf et qui a fait fuir les acheteurs haut de gamme. En 2014, le cabinet d'analyse Bernstein Research avait calculé que Volkswagen perdait 28 000 euros par exemplaire vendu, soit près de 3 milliards de dollars canadiens sur la durée de vie du modèle. Dès le premier jour, tout le monde savait chez Volkswagen que la Phaeton allait perdre de l'argent. Mais personne n'a voulu se faire aboyer dessus par le bulldog.
Wow!
Ouais, ça, c'est clair. Ça te montre jusqu'à quel point ce gars-là avait une mainmise totale et entière sur tout ce qui se passait dans ce groupe-là.
Bob Lutz a dit le scandale du Dieselgate, c'est clairement lui. Il n'a jamais dit tricher, mais il a entraîner une culture à l'intérieur de dire ça prend des résultats, ça prend des résultats, ça prend résultats. Faites ce que vous voulez, les gars.
Exact. Mais tu sais, juste pour te situer, je pense que ce bonhomme-là, il y a eu 12 enfants de 4 femmes différentes.
Enfin, c'est un chiffre assez élevé.
ça donne une idée du personnage.
Ça, c'est ce qu'on sait.
Exact. Ouais, ouais. Et tu sais, il avait décidé, c'est sous sa gouverne il a décidé que Audi allait acheter Ducati. Ducati, le fabricant de motos italien. Ouais. Tu sais, c'est des motos haut de gamme. Là. C'est des motos hyper... Ducati, c'est la Ferrari des motos. Ouais. C'est pas compliqué. Puis là, il a décidé que c'était important d'intégrer des motos italiennes qui se vendent... La moins chère se vendait, je sais pas quoi, moi, 15 000 ou 20 000 $ je sais pas quoi.
Ouais.
Puis les plus chères, c'était au-dessus de 50 000. Parce que ça, c'était important que le groupe Volkswagen détienne cette marque-là, alors qu'il n'y avait aucun transfert de technologie possible.
Aucune énergie possible, rien.
Exactement. Mais lui, il tripait sur les Ducati, et j'achète la compagnie. C'est hallucinant quand tu y penses.
On est content qu'il n'ait pas trippé sur Subway. Dieu sait si Vox ne nous vendrait pas des sous-marins aujourd'hui.
Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage.
Gabriel, tu es allé mettre à l'essai le bébé de la famille Audi en Amérique du Nord, la A3, qui se refait une beauté. Et c'est intéressant de voir qu'un constructeur comme Audi continue de croire à un produit comme celui-là pour le marché nord-américain, alors que tu as BMW qui a délaissé le marché, Mercedes qui a abandonné la classe A, Acura qui pense qu'une Integra, ça peut rivaliser avec ça, puis personne n'en achète. Où on s'en va avec ça?
Ben écoute, tu sais, la Audi A3 est aussi sa version sportive S3, là, parce que les
qui est probablement même un peu plus populaire.
Exactement. Ouais. Bon, premièrement, pour vous situer rapidement, dans les deux dernières années, je pense, dans le guide de l'auto, on l'a choisi meilleur sous-compact de luxe. T'as raison, tu sais, il y a beaucoup d'autres...
Oui, mais la compétition n'est pas là, exactement. C'est ça. Ouais.
Mais c'est une bonne voiture. Et pour ce que l'on fait maintenant pour 2024, c'est une refonte, tu sais, essentiellement du modèle. Sur le plan mécanique, là, la A3, c'est exactement la même chose qu'avant.
Le 2 litres, le système quattro, exactement. Ouais, c'est ça.
C'est 201 chevaux. Il n'y a rien de changé, rien de nouveau sur le moteur, boîte de vitesse, rouage, tout ça, c'est la même chose. Par contre... on a droit à un restylage de carrosserie pour rendre la voiture un peu plus sportive, un peu plus premium aussi. Mais surtout à l'intérieur. À l'intérieur, on n'a pas beaucoup de changements non plus, sauf que tu as une nouvelle chaîne audio de marque Sonos qui va être intégrée au véhicule. Et surtout, ils ont pris un soin de choisir des matériaux ou des agencements d'intérieur un peu plus premium, un peu plus de qualité. Il y a des matériaux recyclés aussi là-dedans, mais le look que tu as quand tu t'assois au volant de la voiture maintenant, c'est que, wow, OK, là, c'est pas la A3 qu'on avait avant.
Okay.
C'est vraiment plus une Audi, c'est vraiment plus premium, c'est vraiment plus haut de gamme. Comme
un exercice qu'on a encore fait avec l'A4. C'est ça qui est intéressant.
Ben,
c'est
ça s'en vient.
Ça s'en vient.
Ça,
mais l'A3, il y a droit avant.
Oui, exactement. T'sais. Et surtout aussi, en Europe, bon, évidemment, il y a ici, nous, on n'aura que la berline.
Ouais.
En Europe, il y a aussi une version Sportback à 5 portes qui est très populaire.
Qui est tellement plus belle exactement. Et pratique. Et bon.
Mais que les Américains ne veulent pas, donc on n'a pas droit à ça nous, chez nous. Et il y a aussi maintenant une nouvelle version qu'ils appellent All Street de la A3 qui va être réservée au marché européen. Donc, imagine-toi une A3 Sportback, 5 portes, avec une garde au sol un peu surélevée, des moulures de bas de caisse. On veut lui donner un look un peu plus aventurier, si tu veux. Mais elle n'a pas de rouage intégral et c'est la raison pour laquelle ce n'est pas une all-road, mais c'est une all-street parce que ça reste une traction. Donc, ils ont développé ou inventé cette nouvelle appellation pour ce créneau-là, si on veut.
Si on la vendait chez nous, il l'appellerait la Notre-Dame, en l'honneur de la rue, qui permettrait de conduire. Bon. Mais alors, bref, ça, on n'y aura pas droit.
Alors voilà pour le look de la A3. Mais aussi dans la foulée de ça, j'ai fait l'essai de prototypes camouflés à l'époque, c'est au mois de décembre dernier, de la Audi S3. Alors la Audi S3, c'est autre chose, c'est la version de performance, comme tu le sais.
Qui est la Golf-R version Audi. Là.
Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est bon, maintenant le moteur a un peu plus de puissance que le modèle précédent. Mais tu as surtout aussi... nouvelle géométrie de suspension à l'avant, une nouvelle direction. Tu as également un carrossage là, au niveau du train avant qui est le double d'angle de carrossage du modèle précédent. Fait que la voiture est beaucoup plus précise quand tu la conduis. Là, elle s'inscrit vraiment bien en virage. Mais surtout, ils ont rajouté un équipement que l'on retrouve sur la RS3 qu'on n'a pas ici, qui s'appelle le Torque Splitter.
Oui, oui, oui.
Alors, le Torque Splitter.
Que tu as sur la Golf R.
Oui, mais sur le. Oui, effectivement.
Sur l'essieu arrière.
Oui, exactement. Sur
avec le drift mode.
Exactement.
Bon.
Alors, ouais, ouais. L'embrayage multidisque. Et donc, il n'y a pas un drift mode comme tel dans la Audi S3, mais quand tu te mets en mode dynamique, ça envoie plus de couple à la roue arrière extérieure.
Donc, tu survires un
exactement,
peu.
Exactement, tu bon. Survires un peu. Et ça marche. Ça ah. marche. C'est vraiment hallucinant parce que sur les routes de montagne sur lesquelles j'ai conduit cette voiture-là, chaque sortie de virage, là, tu sentais l'arrière qui partait. C'était vraiment, vraiment bien, bien calibré. Puis super le fun à conduire.
J'ai envie de te dire, il était temps parce ouais. qu'il y avait plusieurs éléments sur la Golf R qu'on n'avait pas sur la S3 à prix plus élevé. Bon, là, ouais. tu vas me dire, oui, tu as un niveau de finition peut-être un peu supérieur, tout ça. Mais la Golf R était pour moi une voiture techniquement plus désirable que la S3. Fallait se mettre à jour. Donc, on est allé chercher, oui. on est allé chercher la puissance de la, ouais. de la Golf R aussi.
Oui, effectivement, parce que le moteur maintenant, c'est 328 chevaux dans la Audi S3.
Donc, c'est même un peu plus.
Exactement. Okay. Donc, hiérarchie oblige. Ouais, ouais. 310 livres-pieds de couple. Alors, un 0-100 en 4,7 secondes. C'est une voiture très, très compétente. Mais pour faire la différence avec la Golf R, que moi aussi, j'ai conduit, ouais. c'est la S3, parce que c'est une berline avec un coffre, à vitesse d'autoroute, vitesse de croisière, c'est un peu plus silencieux dans l'habitacle parce ouais. que, évidemment, le hatchback, tu as une caisse de résonance.
Ah, t'as pas le même feeling. C'est vrai que c'est différent.
C'est ça.
T'as l'impression que la voiture est plus petite, est plus ouais. rasoir un
ouais,
peu,
c'est
est plus
et,
bon.
Et encore une fois, avec la nouvelle géométrie de suspension, les nouveaux freins aussi, ils ont mis des freins beaucoup plus gros à l'avant une monte pneumatique qui est un peu plus performante. Bref, tu sais, on n'est pas rendu à... c'est pas la RS3, clairement la RS3. Malheureusement, on n'a pas la RS3 ici. On l'a aux États-Unis, mais pas ici. Mais c'est une voiture qui est encore plus le fun à conduire qu'elle l'était. Puis moi, c'est devenu un sérieux coup de cœur.
Je sais pas si je vais t'en dire autant de mon Lincoln Nautilus.
Made in China.
Made in China. Écoute, ouais, c'est drôle parce que, bon, j'arrive du lancement du Lincoln Nautilus. Véhicule numéro un en importance pour la marque Lincoln en Amérique du Nord. Et le seul endroit où ce n'est pas le véhicule le plus vendu dans la gamme Lincoln en Amérique du Nord, c'est au Québec, où on a acheté un peu plus de Corsair que de Nautilus. N'en soyez pas surpris. Notamment parce que le Corsair, il y a une version hybride rechargeable admissible à des crédits. Nanana, vous comprenez la chanson. Lincoln, avec son nouveau Nautilus, a fait un redesign intéressant globalement à l'extérieur. La ligne est bien réussie. Ça n'a jamais été un défaut chez Lincoln, je te dirais. Mais effectivement, c'est un véhicule qu'on fabriquait jusqu'à tout récemment du côté d'Oakville en Ontario, à côté du Ford Edge, qui verra sa production, lui, cesser au milieu de l'été de cette année. Mais on a arrêté le Nautilus et là, la fabrication est en Chine. Pourquoi? Parce que c'est le premier marché mondial de Lincoln, bien évidemment. Là-bas, on a 5 véhicules, incluant une berline qu'on appelle Zephyr, qui n'est pas vendue chez nous en Amérique du Nord. Mais ce Nautilus-là a un format un peu plus gros, plus de space en arrière, plus de dégagement au coffre, mais ça demeure un 5 passagers. Et on a troqué le moteur V6 pour une nouvelle technologie hybride qui fait 310 chevaux, rouage intégral de série, et tu roules à 7,5 litres au 100. Alors ça, pour moi, c'est une réussite mécanique totale. Mais la façon de vendre un Lincoln Nautilus au nord-américain, c'est par l'habitacle. Mm-hmm. Alors, ouvre les portes, t'as 48 pouces d'écran dans la planche de bord.
C'est ça.
D'un côté à l'autre, ça ceinture littéralement la base du pare-brise. Mm-hmm. Ce qui est un peu particulier puis que j'ai moins aimé, c'est que le volant n'est pas circulaire, pas à la façon d'une Tesla, mais avec une partie supérieure qui est plane pour que tu puisses voir l'instrumentation adéquatement. Tu as un autre écran central qui, lui, est tactile où là, tu peux gérer tout ça. Quand j'ai vu le truc la première fois, j'ai fait, ça va être un cauchemar ergonomique et honnêtement, ils ont fait un travail magnifique. Tout est intuitif, tout fonctionne bien. Est-ce qu'il y a des informations que j'aurais aimé retrouver ailleurs au niveau de la disposition? Peut-être, mais tu peux essentiellement paramétrer tout ça comme bon te semble et la qualité d'image que tu as à l'intérieur, elle est incroyable. Sauf que ce qui est drôle, c'est qu'on te vend un véhicule D'abord, il faut que je vous dise un truc, là. Tous les gens de Lincoln qui étaient présents sur place pour nous vendre le produit, c'était des femmes entre 35 et 55 ans qui étaient pour la plupart des soccer moms. C'est vraiment la définition de ce que je pourrais te... Je te décris l'équipe Lincoln, c'était que ça. Puis je veux pas dire que c'est pas correct, c'est juste que tu voyais une façon de penser dans la recherche et développement du véhicule qui s'explique par qui nous les a présentés. Alors, on a développé une technologie qui s'appelle Rejuvenate. Imagine-toi le truc. Tu t'assois à bord du véhicule, tu mets le véhicule, ou en fait, tu circules avec ton véhicule, tu vas chercher ton enfant à l'école, tu te stationnes et là, tu appuies sur le mode Rejuvenate. Alors, dans le véhicule, tu as des cartouches de parfum dans la console centrale. Tu as des musiques préprogrammées à bord du véhicule dans lequel tu vas retrouver 28 haut-parleurs. Évidemment que tu as des images qui peuvent défiler devant toi à travers les écrans. Ça peut être des images de volcans, de bois. Tu peux être au bord de la mer. Le siège va s'incliner automatiquement, va commencer à te masser. Il va avoir de l'air frais qui va passer devant toi si jamais tu es au bord de mer. Il va avoir de l'air chaud si jamais tu es proche d'un volcan. On te crée un scénario qui va durer entre 3 et 5 minutes selon ta programmation pour que tu puisses te détendre, te réinitialiser l'esprit et passer à la prochaine étape de ta journée. Mais ça, c'est évidemment quand le véhicule est immobile,
exact.
Quand il est toujours en marche, parce que tu ne peux pas éteindre le véhicule et que ça fonctionne. Et moi, j'ai levé la main, j'ai fait, si vous allez chercher votre fils à l'école et vous laissez tourner votre véhicule au ralenti pendant 5 minutes devant le stationnement de l'école, c'est moi, clair, je peux vous dire que le directeur va venir cogner dans ma vitre, hey, éteignez votre véhicule. Mm-hmm. Et la réponse, ça a été... Ah, ben, on n'avait pas pensé à ça. J'ai trouvé ça fantastique. Bon, sur un véhicule électrique, ça marche. Mais quelle idée de sans dessin, pour vrai. J'ai fait, vous avez payé des gens pendant des années de temps pour me développer un truc de même. Et c'est ça que ça donne. Puis les parfums, là, attends. On va défoncer le temps de l'émission de 2 minutes, là. Mais les parfums, ils ont été élaborés par une équipe de spécialistes en la matière qui, sur place, nous faisaient goûter à des breuvages qui étaient inspirés de chacun de ces parfums-là. Il y en a 7 au total. Tu peux t'acheter des cartouches chez Lincoln. Tu sais, moi, quand je vais au concessionnaire, c'est pour acheter un filtre à huile. Bon, non, là-bas, tu vas aller t'acheter des cartouches de parfum.
C'est tellement 2010. Oh là là.
Mais tout ça pour dire qu'on a... Bon, la qualité de finition, le confort, c'est pas un véhicule excitant à conduire. Le moteur 2 litres de base, ça vaut pas la peine parce que pour 3 500 $ de plus, t'as l'hybride, tu sauves 2 litres et demi au 100, t'as 60 chevaux supplémentaires, puis chaque dollar dépensé, tu vas les récupérer à la revente. Fait que c'est un no-brainer, t'achètes l'hybride. Mais ces gadgets-là qu'ils ont développés, c'est vraiment...
Clairement, ils veulent aller haut de gamme parce que tu as ça maintenant dans des classes S, tu as ça dans des parfumeurs puis des choses comme ça, tu as ça dans des
voitures. Mais Citroën faisait ça en 2004, il n'y a rien de nouveau. Hein.
Mais avant de travailler là-dessus, commence donc par travailler sur ton image de marque.
Exact.
Parce que le seul problème de Lincoln, c'est l'emblème. Qui s'identifie à cette marque-là aujourd'hui?
Ouais,
Lincoln a vendu à peine 6000 véhicules au Canada l'an dernier. C'est moins... c'est 2 fois moins que Volvo, c'est quelques centaines d'unités de moins que Genesis, qui est encore considéré comme un start-up. C'est 5 fois et demi moins que Lexus. Et on ne se gêne pas pour le dire, le véhicule cible numéro 1, c'est le Lexus RX.
Ben oui.
Ça, on le crie haut et fort. On ne parle même pas de Cadillac, mais c'est vraiment Lexus RX qui est dans la mire. Puis honnêtement, ils ont un produit très honnête entre les mains. Persuadé qu'ils vont réussir à aller chercher une certaine clientèle, mais il faut que tu réussisses à vendre le brand.
Le brand.
Il est là le problème.
Et aussi le fait, encore une fois, le véhicule est assemblé en Chine. Avec est-ce que.
Un Amérique. Pour nous, honnêtement.
Ben,
au Québec, ça achalera pas grand monde.
Ouais,
mais il y a bien des gens qui achètent des Buick Envision, puis il y a des gens qui achètent des VinFast plus que n'importe où. Donc, je pense pas que la provenance soit un problème. Mais. En Géorgie puis au Wyoming, vendre un véhicule made in China qui s'appelle Lincoln, ça dépasse l'imagination, ça dépasse l'imaginaire. Enfin bref,
voilà.
Véhicule intéressant, peut-être moins dynamique à conduire que ta S3, ça c'est sûr. Surtout que du 22 pouces là-dessus, c'est quand même spécial comme combinaison, mais enfin bref, je retiens ça. Lorsque tu auras la chance de conduire le véhicule, active le mode
Rejuvenate.
À la semaine prochaine.
Bonne semaine à tous.
Salut.
Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.